Le débat africain, Namori Dosso.
Bienvenue dans votre émission. Merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro du débat africain sur RFI. Aujourd'hui, place au coup d'œil, au point de vue et peut-être au coup de gueule des éditorialistes du continent. Comment perçoivent-ils les soubresauts de l'actualité africaine? Quel regard portent-ils sur ce monde en perpétuel mouvement? Nos consoeurs et confrères africains nous livrent leur regard. Dans la deuxième partie du débat africain, nous parlerons des préoccupations grandissantes quant à la situation au Proche et Moyen-Orient. Hier, l'Iran a activé sa défense anti-aérienne. Plusieurs explosions ont été signalées dans la matinée dans le centre du pays. Elles interviennent après le bombardement sans précédent mené par l'Iran contre Israël la semaine dernière. Le Proche-Orient est-il à l'aube d'un embrasement? L'escalade est-elle inéluctable entre Israéliens et Iraniens? On en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, l'actualité en Afrique, marquée cette semaine par la campagne électorale au Tchad. 10 candidats, dont le président de transition et son premier ministre, tentent de convaincre les électeurs tchadiens. Un scrutin joué d'avance dénonce certains opposants dont les candidatures n'ont pas été retenues. Nous parlerons également de la guerre au Soudan qui est entrée dans sa deuxième année cette semaine. Le conflit qui oppose les généraux Bourane et Emeti a provoqué la mort de milliers de personnes et conduit au déplacement de plus de 8 millions de Soudanais. Ce lundi à Paris, la communauté internationale a promis 2 milliards d'euros d'aide à destination des populations civiles. Mais est-ce suffisant pour répondre à la crise soudanaise? Ces sujets d'actualité, on en parle avec Karine Oriot, correspondante en France de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International. Discussion également avec Ahmed Newton Barry, journaliste burkinabé. Enfin, Eric Topona est en ligne de Bonn, en Allemagne. Vous êtes journaliste tchadien, la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle. Bonjour à tous les trois et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour
Namori.
Bonjour Namori, bonjour à toutes et à tous.
Choisissez-moi le 6 mai. Choisissez-moi le 6 mai. Et je suis un homme de parole. Je suis un homme de parole. Comme j'ai respecté mes engagements pendant la transition, je vais respecter mes engagements si je suis élu le 6 mai, le président de la République du Tchad.
Nous sommes majoritaires. Nous sommes, je dirais, un peu favoris. Les différents sondages, tous les médias compris, y compris les derniers, y compris les plus secrets, nous annoncent gagnant au premier tour. Donc c'est avec cette espérance-là. Donc le message que nous allons porter, c'est un message d'espérance, mais un message aussi de possibilité.
Mamad Idriss Déby et Jules Massra, des gens qui ont montré leur incapacité. Je cite ces deux candidats, sont une menace pour l'unité du Tchad. Moi, président, je ferai un seul mandat, parce que éterniser au pouvoir est une source de conflit.
Mahamat Idriss Déby Itno, Succès Massra ou encore Albert Paimi Padaké. 3 des 10 candidats en campagne électorale en vue de la présidentielle au Tchad. Le vote est prévu le 6 mai. Ce scrutin doit mettre un terme à la transition qui a débuté en 2021 après la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Cependant, certaines voix estiment que cette présidentielle est une parodie. Nassour Ibrahim Koursami, le candidat du groupe de concertation des acteurs politiques, une des principales plateformes de l'opposition, déclarait ces derniers jours que le pouvoir ne voulait pas faire face à une opposition crédible dans les urnes. Eric Topona, journaliste tchadien, à la Deutsche Welle, auteur notamment du livre « Essai pour la refondation du Tchad ». Considérez-vous que la présidentielle tchadienne est une formalité pour le pouvoir de transition?
L'un des enjeux majeurs de cette élection présidentielle du 6 mai, c'est d'abord le retour à l'ordre constitutionnel. Et le scrutin va permettre donc à Mahamat Idriss Déby Itno de confirmer sa stature de président de la République, parce qu'il est accompagné dans ce processus par au moins 227 partis politiques. Parmi ceux-ci, parmi ces partis politiques, certains opposants qui avaient combattu les 30 dernières années, le président dauphin Idriss Déby Itno. Donc toutes les conditions semblent réunies pour une victoire.
Donc vous partagez le point de vue des opposants qui disent que c'est une formalité pour le pouvoir?
Je partage ce point de vue avec peut-être quelques nuances. Le pouvoir de Mahamat Déby Itno s'est assuré le soutien de ces 27, de 227 partis politiques, et le système électoral également est encadré et verrouillé, puisque les responsables des principales structures chargées d'organiser et de proclamer les résultats de ces scrutins sont à la solde donc du régime en place. Et sauf miracle, l'élection de Mahamat Déby Itno passera comme une lettre à la poste au soir du 6 mai.
Karine Oriot, correspondante correspondante en France de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International, vous aussi, vous pensez que cette élection est une formalité au Tchad ?
Alors, je ne dirais pas aussi fermement que c'est une formalité. Je pense qu'il faut qu'on laisse effectivement les citoyens tchadiens décider. Ce que je constate, et comme l'a dit mon confrère avant, c'est qu'il faut apporter quelques nuances. Mahamat Idriss Déby, ITNO, au début, nous a dit effectivement qu'il était là durant ces 3 ans pour, en tout cas, tout organiser pour que le retour du pouvoir se fasse aux mains des civils. Et il me semble bien qu'il n'était pas prévu que lui, en tant que président de la transition, soit candidat. Ça, c'est ce qu'il nous avait annoncé. Puis finalement, il a troqué
Rappelons qu'au passage, il y a eu une modification de la Constitution.
Bien sûr, absolument, qui n'est pas un texte, bien sûr, immuable, hein, on est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on est quand même en droit de se poser la question de savoir si on peut croire aussi bien le président de la transition, même si, hein, attention encore une fois, les électeurs décideront, mais on a le droit d'avoir des maîtres des doutes, parce qu'il a dit au début qu'il ne serait pas candidat, la Constitution a été effectivement modifiée, donc on ne se demande pas si finalement il fait tout pour se maintenir au pouvoir, même si il semble lui montrer que bah, toutes les organes institutionnels sont là pour veveiller à une transparence du scrutin.
Alors, 10 candidatures ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, dont celle des opposants Nassour Ibrahim, Negui Koursami et Rakis Ahmad Saleh, des candidatures non conformes et irrecevables selon l'organe en charge de la validation des candidatures. Ahmed Newton Barry, journaliste burkinabé et ancien président de la commission électorale au Burkina Faso, est-ce que cela est de nature à remettre en question la pluralité et la crédibilité du scrutin tchadien ?
Non, à partir du moment où c'est la prérogative des organes, évidemment, de valider les candidatures, le problème ne se pose pas à ce niveau-là. La problématique des élections en Afrique, c'est la qualité de l'environnement. Vous savez, il n'y a rien de neutre. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des institutions qui puissent imposer la victoire. Admettons même que les élections soient transparentes et que même les institutions en charge d'organiser les élections soient vraiment des organismes très crédibles. Mais au soir des élections, qui a la capacité d'imposer la victoire ? Parce que le peuple, lui, peut décider, mais il faut qu'il y ait d'autres acteurs en amont qui puissent donc veiller à ce que la parole du peuple soit respectée. Au Tchad, il y a les militaires qui sont une composante extrêmement importante. Est-ce que vous imaginez, dans toute la logique évidemment du contexte que nous connaissons, que Masra, par exemple, puisse gagner les élections et puisse les faire prévaloir ? Parce que c'est là qui est important. Et quelle est l'autre institution ? Parce qu'il y en a deux. Il y a donc la force militaire et puis il y a la force institutionnelle de la déjuridiction, qui est donc le Conseil constitutionnel. Je ne dis pas que c'est une parodie, je dis simplement que c'est une formalisation. C'est-à-dire que, évidemment, Déby était dans une situation de transition. Aujourd'hui, il valide son pouvoir par le peuple et donc, évidemment, il rejoint son père.
Alors, c'est intéressant ce que vous dites au sujet des institutions tchadiennes, car une partie de l'opposition tchadienne remet en cause la légitimité du Conseil constitutionnel et de l'Agence nationale de la gestion des élections, la plateforme Wakid Tama, les qualifie d'organes de fraude. Éric Topona, ces deux organes seraient sous le contrôle du pouvoir. Est-ce que les craintes des opposants sont fondées ?
Mais très rapidement, je vais d'abord réagir par rapport au fait que certaines candidatures ont été retoquées. Il est vrai, en bon démocrate, les acteurs politiques auraient aimé que tout le monde puisse participer à ce scrutin, mais ce ne sont pas des candidats majeurs. Hein. Quand les médias internationaux font état du fait que certaines candidatures...
Et cela ne doit pas les disqualifier, chers confrères.
Oui, Ahmed Youtenbari.
Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas majeurs, candidats majeurs, qu'ils doivent être...
Éric Topona.
Voilà, je reprends votre question maintenant, Namori. Il est vrai, dans nos pays africains, toutes les institutions chargées de préparer, d'organiser les élections et de proclamer les résultats sont à la solde de ceux qui organisent ces élections. Et c'est le cas de figure au Tchad où le Conseil constitutionnel est dirigé par l'un des pontes du régime Déby père et fils, Jean-Bernard Padaré. L'agence chargée d'organiser les élections est dirigée par Ahmed Bartiré, qui fut plusieurs fois ministre. Il a dirigé la Cour suprême et qui est un proche du président de la transition. Et donc, je pense que les conditions sont réunies pour que des doutes puissent être émises sur la crédibilité de ce scrutin. Maintenant, on peut leur accorder peut-être le bénéfice du doute, mais je ne suis pas naïf, puisque toutes les élections organisées au Tchad depuis l'avènement de la démocratie en 1990, eh bien, ont toujours été contestées, puisque les conditions de leur organisation n'ont jamais respecté les standards requis.
Alors, Karine Oriou, selon Éric Toponin, les conditions pour une élection crédible et transparente n'ont pas l'air d'être réunies. Vous partagez-vous aussi ce point de vue? C'est un scrutin, entre guillemets, joué d'avance?
Alors moi, ce que je peux dire déjà, c'est que je salue, c'est qu'il y a une réelle cohabitation, en tout cas au Tchad. Et que c'est la première fois que l'on voit deux opposants phares, hein, le président de la transition et le premier ministre, hein, parce que rappelons quand même Succès que Succès Masra était l'opposant président du Parti des Transformateurs, et que là, ils ont accordé des interviews d'ailleurs à cette
RFI
chaîne.
RFI sur cette semaine. Sur
absolument, RFI. Et qu'on les entende, et chacun, parce que c'est quand même important, on a vraiment affaire à une vraie compétition politique.
Alors justement,
je trouve que ça, c'est inédit.
Justement, encore une fois, selon certains opposants, ce n'est pas une réelle compétition politique. Selon eux, un pacte aurait été passé entre Succès Masra, le Premier ministre, et le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno. La candidature de Succès Masra relève-t-elle de la figuration, comme l'affirment certains opposants, selon vous?
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a posé la question et que lui, il dit carrément qu'il est là pour la réconciliation nationale. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on part quand même d'un contexte où, effectivement, il rappelle toutes les conditions et lui, il dit « Moi, ce que je décide de faire, c'est la réconciliation nationale ». Ok, admettons que ce qu'ils disent est vrai. Mais on va voir au lendemain de ce scrutin ce que ça va donner. Parce que moi, ce que je dis, c'est que on a compris avec Succès Masra qu'il y a un autre réalisme qui existe en politique et selon le contexte, et que les contingences géopolitiques sont très importantes.
Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a quelques mois encore, Succès Masra était un opposant extrêmement virulent par rapport au pouvoir de transition au Tchad.
Oui, évidemment, ce rappel n'est pas mauvais en soi, il faut vraiment le rappeler, évidemment. Mais en fait, il faut regarder le moment, c'est-à-dire là où nous sommes aujourd'hui. Il n'est pas impossible qu'ils se soient entendus. Parce que, tel que je vois les choses, quand on regarde par rapport aux coalitions qui accompagnent les deux candidatures, il y a d'un côté une centaine de partis, même si on peut imaginer que tous ne représentent pas plus que le président qui les dirige. Mais au moins, l'effet nombre d'un côté et de l'autre, quand on regarde un peu, on se rend compte déjà qu'il y a un déséquilibre par rapport à ça. Et ensuite, le plus important, comme je dis, parce que je ne suis pas convaincu.
Il y a quand même plus de 200 partis politiques.
Éric Toponin.
La candidature. Il y a quand même plus de 200 partis politiques, 227 partis politiques, et non des moindres, qui accompagnent la candidature du président de la transition. Je peux citer par exemple le parti de Saleh Kebzabo, l'UNDR. Kebzabo qui a été l'un des opposants les plus farouches à Déby, qui était arrivé deuxième en 2016. Et donc, je pense que Succès Masra, comme le disent pour le railler certains opposants, est en train de légitimer la candidature.
Alors, Ahmed Youtondari, vous pensez la même chose que ce que nous dit Éric Toponin? Succès Masra accompagnerait cette transition vers le pouvoir?
Hélas, il n'y aurait pas d'autre mot plus juste pour le dire. Ce qui est important, c'est ce qu'ils vont construire ou le concordat sur lequel ils se sont mis d'accord pour l'après-élection. Parce que, comme je dis, l'environnement lui-même ne permet pas à Masra, même si les Tchadiens décidaient de le choisir, de faire valoir sa victoire. C'est ça la grande question. Donc, à mon avis, c'est quoi après?
Mais d'autant si je peux ajouter quelque chose pour abonder dans votre sens, c'est d'autant qu'aujourd'hui, quand ils vont faire campagne, quand ils font campagne, les deux sont comptables du bilan. En fait, même s'il a rejoint effectivement la transition sur la fin, mais en tout cas, je pense que quand il faudra rendre des comptes, il ne pourra pas dire bah, « écoutez, moi j'étais opposant ». Ben non, enfin, aujourd'hui, on va aussi bien lui demander les comptes, les mêmes comptes qu'on demande à Mahamat Idriss Itno.
Alors, en même temps, il faut ajouter aussi un autre élément, parce que lorsqu'il a rejoint Mahamat, il a un peu cassé une dynamique qui le portait. Donc aujourd'hui, au sein même de la société...
Justement, est-ce que ça ne va pas se retourner contre lui?
Mais bien sûr, beaucoup n'y croient plus.
Bien sûr. Il y a un espoir déçu.
Tout à fait.
Donc, il n'a ni le soutien populaire, comme avant, parce qu'il y a l'élément de rempart de la société qui est un élément important au niveau électoral, mais il n'a pas aussi les institutions.
Donc, moi, ce que je veux quand même relever, c'est que, pardonnez-moi si ce que je dis est faux, c'est que c'est quand même habituel dans le contexte politique au Tchad qu'on voit des opposants rallier soit le parti au pouvoir et que ce soit quasiment tout le temps les mêmes figures. Je soulève notamment que Yaya Dillo, qui est devenu opposant, était d'abord au début quand même proche du père et ensuite il y a eu une mésentente. Donc j'ai l'impression que dans le paysage politique au Tchad, ce sont souvent les mêmes,
mais pas seulement au Tchad,
les mêmes visages que l'on voit et qui finalement rebattent les cartes.
Éric Topona voulait réagir.
Je pense que Succès Masra représentait une sorte d'espoir pour une jeunesse tchadienne qui s'est sentie désabusée. Succès Masra qui a qualifié les autres opposants qui avaient très tôt regagné la transition, il les a qualifiés à l'époque d'accompagnateurs. Il a même dit à nos confrères de Jeune Afrique qu'on ne reforme pas une dynastie, on s'en sépare. Le même Succès Masra qui a été à l'origine des manifestations du 20 octobre 2022 qui ont fait plus d'une centaine de morts. Et c'est ce même qui incarnait le changement qui est venu donc dealer avec un régime qu'il critiquait. Donc au sein de la société tchadienne, l'espoir est déçu. Mais les Tchadiens vont décider si malgré donc cette trahison, entre guillemets, hein, de l'idéologie originelle, ils estiment que Succès Masra continue de représenter leurs aspirations. Eh bien, on le verra au soir du 6 mai prochain.
Succès Masra, donc, on verra ainsi sa position, son nouveau positionnement en tant que Premier ministre de la Transition lui bénéficiera dans les urnes lors de la présidentielle tchadienne prévue, je le rappelle, le 6 mai prochain.
Le débat africain.
Et au total, nous pouvons annoncer que plus de 2 milliards d'euros seront mobilisés en faveur des femmes et des hommes du Soudan.
Notre participation aujourd'hui à la conférence de Paris vise à attirer l'attention du monde sur les conditions tragiques que vit notre peuple. Et nous les appelons à prendre leurs responsabilités vis-à-vis de notre pays et de notre peuple.
Le président français Emmanuel Macron, suivi de l'ancien premier ministre soudanais Abdalla Hamdok. La communauté internationale était réunie à Paris ce lundi pour une conférence humanitaire consacrée à la situation au Soudan. Le pays est dévasté depuis un an par une guerre qui oppose l'armée soudanaise du général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de rapide dirigées par le général Mohamed Hamdan Daglo dit Emeti. Ce conflit a fait des milliers de morts, déplacé plus de 8,5 millions de personnes. Selon l'ONU, les populations sont menacées par la famine, sans parler de la destruction massive des infrastructures. 2 milliards d'euros d'engagement d'aide humanitaire, c'est donc la somme promise par les pays présents lors de cette conférence, une somme jugée insuffisante par certains humanitaires, parmi lesquels figurent Médecins sans frontières. Ahmed Newton-Barry, êtes-vous d'accord avec le constat de MSF ? 2 milliards, c'est pas assez ?
Si encore on pouvait les mobiliser, parce que c'est pas la première fois que la communauté...
Il s'agit de promesses de dons.
Voilà, c'est une promesse de dons. Et vous savez que la communauté internationale, dans ce genre de crise, est plus généreuse en promesses que concrète dans la réalisation ou pour délier la bourse. Moi, je me rappelle très bien quand on a eu le G5 Sahel, on a eu ce type de conférence avec l'Union européenne ici, et où on avait promis beaucoup d'argent. Et jusqu'à la fin, évidemment, du G5 Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ils n'ont même pas pu débourser, je crois, le 1/10. La problématique autour de ces crises-là, ce sont des crises périphériques aujourd'hui, considérées par la communauté internationale. Et c'est ça qui amène tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et puis le Soudan n'est pas sa première grande crise où la communauté internationale est intervenue. Ça montre évidemment l'échec de ce type d'engagement. Et c'est pour cela, moi, je ne crois pas. D'abord, c'est peu. Et ce n'est même pas sûr que ça arrive.
Karine Oriot, vous aussi, vous pensez que cette somme n'est pas à la hauteur de la situation actuelle au Soudan ?
Je réitère les propos de M. Barry. En gros, ce sont des promesses de dons. Il me semble que l'ONU avait demandé, en tout cas...
Entre 3 et 4 milliards.
Entre 3 et 4 milliards, on n'y est pas du tout. Ensuite, il y a quand même une mobilisation. Il faut saluer cette mobilisation. Une fois que ces fonds vont être mobilisés, admettons qu'ils soient mobilisés, qu'on mobilise même les 4 milliards. Comment est-ce qu'on fait ? Puisqu'on a deux généraux qui ne s'entendent pas du tout. En tout cas, l'ONU dit que c'est pour au moins transporter tout ce qui est soins de santé, des médicaments, des produits alimentaires. Comment on fait sur place ? Parce qu'il faut négocier. Si c'est Khartoum, on ne sait plus à qui appartient Khartoum. Si c'est Port-Soudan, on sait très bien que c'est aussi la base de Hemedti. Donc comment on fait aujourd'hui, même si on mobilise ces fonds ?
L'utilité des conférences humanitaires et la situation au Soudan qui dure depuis un an maintenant, on en reparlera évidemment dans le débat africain. Pour l'instant, on va faire une courte pause juste après le journal. Nous parlerons de la situation au Moyen-Orient.
Le débat africain. Namoury Dosso.
Bienvenue et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez dans cette deuxième partie du débat africain sur RFI. Ce samedi, place au regard des éditorialistes africains. Ils livrent leur regard et leur point de vue sur ce monde en perpétuel mouvement. Nous sommes en ligne de Bonn, en Allemagne, avec Eric Topona, journaliste tchadien à la rédaction Afrique francophone de la Deutsche Welle. Avec nous en studio, Karine Oriot, correspondante en France de la chaîne de télévision camerounaise Canal 2 International. Face à elle, le journaliste burkinabé Ahmed Newton-Barry.
Je reviens de réunion avec les ministres des Affaires étrangères britanniques et allemands. Hier soir, j'ai parlé au Premier ministre britannique, Rishi Sunak, et je m'entretiendrai bientôt avec d'autres dirigeants. Je remercie nos amis pour leur soutien dans la défense d'Israël, et je dis cela à la fois pour le soutien verbal et le soutien en action. Ils ont également toutes sortes de propositions et de conseils. Je les apprécie, mais je veux être clair. Nous prendrons nos propres décisions et l'État d'Israël fera ce qu'il faut pour se défendre.
Si le régime sioniste veut prendre des mesures contre nos centres et installations nucléaires, il fera certainement face à notre réaction.
Une nouvelle étape a donc été franchie au Proche-Orient hier, après l'attaque iranienne au cours de laquelle plus de 350 drones et missiles ont été lancés sur le territoire israélien et dont la quasi-totalité a été interceptée en vol. Plusieurs explosions ont été signalées hier sur le territoire iranien. S'agit-il de représailles israéliennes ? Pas de commentaire du côté de Tel Aviv. Européens et Chinois font part de leurs craintes face au risque d'embrasement dans la région.
Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que toutes les parties s'abstiennent de toute escalade dans cette région. Nous avons vu l'attaque massive de drones et de missiles, environ 300, de l'Iran contre Israël. Il est absolument nécessaire que la région reste stable et que toutes les parties s'abstiennent de toutes nouvelles actions.
La Chine s'oppose à toute action susceptible d'entraîner une escalade des tensions et continuera à jouer un rôle constructif pour une désescalade.
Les réactions d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, suivie de Li Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le G7 appelle à empêcher une nouvelle escalade. L'Allemagne exhorte à la désescalade. Le Kremlin appelle les parties à la retenue. Une partie du monde retient son souffle quant à la situation au Proche-Orient. Ahmed Newton-Barry, ce qui était une hypothèse la semaine dernière, semble devenir réalité au fil des jours. La confrontation directe entre Israël et l'Iran est-elle inévitable?
Elle n'aura pas lieu, à mon avis. Il faut quand même se dire que nous sommes à un niveau très élevé de la diplomatie et de la politique, et que cette crise-là, évidemment, est bien surveillée comme le lait sur le feu par l'ensemble de la communauté internationale qui est très bien présente. Contrairement au Soudan et aux crises africaines, voilà une crise évidemment majeure autour de laquelle la communauté internationale et les grands de la communauté internationale restent encore mobilisés. Et puis n'oubliez pas, en fait, souvent les gens ont un narratif un peu négatif sur les mollahs, mais les mollahs sont des gens qui ont appris à gérer le pouvoir et ont aujourd'hui une certaine idée des relations internationales et diplomatiques, et ils savent que dans ce jeu-là, mieux vaut rester dans la dissuasion plutôt qu'évidemment d'aller dans la confrontation. Et de mon point de vue, ils n'iront pas plus loin que ça. Et d'ailleurs, on peut regarder ce qu'ils ont dit depuis hier.
Karine Oriouf, on a l'impression que la situation échappe aux acteurs iraniens et israéliens, contrairement à ce que nous dit Ahmed Newton-Barry. Selon vous, sommes-nous entrés dans une phase d'escalade contrôlée ou incontrôlable?
Moi, je pense que nous sommes dans une phase d'escalade contrôlée et contrairement à ce que dit M. Barry, je pense que nous sommes déjà effectivement dans une situation et ce qui est intéressant avec ce conflit, comme vous l'avez dit, il est beaucoup plus fort parce que nous sommes dans une autre ère. C'est l'utilisation de drones, on parle d'armes nucléaires et ça prend d'autres proportions. C'est quand même ça qu'il faut voir. On a vu des ambassades qui ont été sur lesquelles ils ont envoyé des bombardements. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle tournure dans cette guerre et il faut que la diplomatie maintenant se mette elle aussi au pas.
Eric Topona, la situation évolue sans cesse ces dernières heures. Faut-il craindre justement les jours à venir entre Israéliens et Iraniens ?
Je ne suis pas du tout surpris, hein. On voyait les choses venir depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Les acteurs internationaux ont fait semblant de ne pas voir venir cette situation qui est en train d'aller crescendo. Et si on y prend garde, même si pour l'heure les différentes parties, les belligérants, essaient de faire preuve de retenue, mais attention, Israël est en train de s'organiser pour justement infliger une correction, entre guillemets, suite aux agissements des Iraniens.
Donc vous pensez qu'Israël veut un affrontement direct avec l'Iran ?
Même si les deux parties essaient de tâter le terrain, rien n'est à exclure, même si la diplomatie est en train de s'activer. L'Iran a menacé d'attaquer des centrales nucléaires israéliennes. Si la diplomatie n'essaie pas de s'interposer, tout est possible, même si je nuance quand même mes propos. Le contexte est fait de telle sorte qu'une guerre entre l'Iran et Israël aura des répercussions incalculables pour l'ensemble de la région.
Alors pour le moment, nul ne sait quelle est l'origine des explosions survenues hier dans le centre de l'Iran. Mais certains y voient une riposte israélienne. Ahmed Newton Barry, selon vous, cette hypothèse est-elle probable ?
Je pense même qu'il y a un responsable israélien qui a fait un tweet.
Et qui a été repris par la suite par les autorités. Oui.
Voilà, mais bon, enfin, de ce que j'entends depuis minuit ou 4 heures heure de Paris, que
les premières alertes sont arrivées,
je pense que il n'y a pas de doute que ça doit être forcément des drones. Apparemment, ils ne sont pas nombreux non plus. Je crois que c'est 2, 3 ou 4 drones qui ont été interceptés aussi par les Iraniens et qui n'ont pas donc touché les installations significatives de l'Iran. Donc c'est une sorte évidemment de baroud d'honneur, de mon point de vue, pour l'honneur d'Israël. Parce qu'il y a le protocole d'Israël en matière de défense. C'est qu'aucune attaque ne reste impunie. Donc je pense qu'il, pour l'occasion, Netanyahou a juste, de point de vue formel, de mon point de vue, voulu remplir ce contrat-là ou ce concordat avec la communauté nationale. Puisque n'oubliez pas aussi que cela s'adresse à l'opinion israélienne. Après le flop, évidemment, d'octobre, Netanyahou, qui est dans une très mauvaise posture et qui n'entend pas quitter le pouvoir, a besoin évidemment de tout ça.
Alors reprenons ensemble la chronologie des événements. Le 1er avril, Israël lance un raid qui détruit le consulat iranien à Damas. 16 personnes sont tuées, parmi lesquelles des gardiens de la révolution. Le régime de Téhéran invoque la légitime défense et lance une attaque de missiles et de drones contre le territoire israélien, dont la plupart seront interceptés en vol. S'il s'avère que l'armée israélienne est derrière les explosions en Iran ce vendredi, diriez-vous qu'il s'agit d'une réponse légitime aux bombardements iraniens, Karine Orion ?
Depuis les attaques du 7 octobre, on ne parle que de légitimité dans les réponses qui sont des réponses quand même tragiques. Enfin, et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est un conflit qui a pris des proportions et que, effectivement, la communauté internationale qui est là pour, en tant que médiatrice se retrouve un peu à bout de souffle. Et que ça a déjà pris des tournures pour moi. Et donc, chacun veut répondre parce que chacun, à chaque fois, dit « Ben non, moi, il est impossible de rester sur cette humiliation. Il y a eu des victimes ou alors il y a eu des destructions, en tout cas d'institutions. » Et donc, on est déjà, pour moi, dans un critère de guerre.
Éric Topona, l'Iran et Israël s'affrontent dans l'ombre depuis un certain temps. Aujourd'hui, cette opposition se fait au grand jour. Pensez-vous qu'on a franchi un cap ?
Je pense qu'un cap a effectivement été franchi. Mais il faut rappeler quand même qu'après l'attaque inédite lancée par l'Iran contre le territoire israélien, c'était dans la nuit du 13 au 14 avril, la communauté internationale cherche tout de même, même si ça ne se constate pas, ça ne se remarque pas, elle cherche à éviter l'embrasement dans la région. Il faudrait, de mon point de vue, que les acteurs qui ont une influence sur le cours des événements essaient de prendre...
Mais qui sont ces acteurs, justement ?
Je pense notamment aux États-Unis, où il faudrait peut-être prendre de nouvelles sanctions contre le régime iranien et dans le même temps chercher à convaincre Israël de mesurer, de contenir la riposte qu'elle a...
Mais depuis le 7 octobre dernier, est-ce que les États-Unis sont encore audibles vis-à-vis du gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, selon vous ?
Je pense que les États-Unis, on en a déjà parlé il y a quelques semaines sur cette antenne, sont en train de faire preuve d'une hypocrisie politique et diplomatique. Je pense que d'un côté, elles critiquent et condamnent du bout de lèvres les agissements d'Israël et de l'autre, réitèrent leur soutien à Israël. Et on l'a vu lors de l'attaque du 13 et 14 avril, Joe Biden a clairement réaffirmé le soutien déjà connu des États-Unis à Israël. Donc il faudrait que les États-Unis, qui ont quand même une responsabilité autorité morale dans ce qui se passe, et c'est de convaincre Israël de mesurer sa riposte, hein, la riposte promise, hein, pour éviter cet embrasement. Parce que si les deux pays s'affrontent, je pense qu'il y aura une sorte de métastase qui va plonger la région et même le monde, hein, parce qu'il y aura des effets de contagion, des effets domino, et ce sera dramatique et préjudiciable, hein, pour la paix mondiale.
Ahmed Newton Barry, la position des États-Unis est-elle crédible dans ce conflit ?
Non, il y a deux choses qu'il faut considérer de mon point de vue. N'oubliez pas l'attaque d'octobre contre Israël et puis évidemment cette sortie de l'Iran. Vous avez dit que tous les missiles et les drones ont été interceptés.
La quasi-totalité.
Mais pas seulement par Israël. Il a fallu que l'ensemble de la coalition internationale vienne au secours d'Israël. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans l'affrontement ou dans la confrontation dans cette sous-région, vous avez en face Israël et l'Iran qui ont à peu près, si quelqu'un d'autre ne s'y mêle pas, à peu près le même pouvoir ou la même force. Et donc ça montre aussi que Israël de plus en plus dépend des Occidentaux et que du point de vue de la politique interne, même si évidemment elle reste sans inclinaison, Israël ne peut plus rien faire sans évidemment s'en référer et à la communauté internationale qui est son principal soutien, aux États-Unis. Évidemment, qui reste le leader, ou en tout cas le chef de file de cette communauté internationale. Donc, il y a forcément cette question-là aujourd'hui, de mon point de vue, qui fait que, contrairement à ce que l'on pense, on va sortir de ce conflit-là avec une redistribution des forces et des puissances dans la sous-région. Mon confrère tchadien disait qu'il fallait qu'on sanctionne l'Iran. Moi, je dis, de plus en plus, la grande communauté internationale telle qu'on la connaît aura moins de pouvoir de sanctions contre des puissances périphériques, mais qui montent en puissance. Parce qu'aujourd'hui, le critère de puissance reste quand même la possession de la bombe nucléaire.
Karine Orion voulait réagir.
Je partage tout à fait cet avis, mais moi je reviendrai surtout sur l'hypocrisie et puis le silence à demi-mot de cette grande communauté internationale. Et puis ensuite, pour répondre à votre question, pour moi le conflit s'est déjà métastasé parce que on a parlé tout à l'heure du Tchad, on a parlé tout à l'heure du Soudan, on a la présence effectivement, l'Iran participe d'une manière ou d'une autre en étant solidaire d'un des généraux qui est justement à la tête du Soudan. Donc on voit quand même que cette guerre avec la présence effectivement de drones militaires, d'armes militaires, est déjà présente un peu partout dans le monde et que cette communauté internationale qui ne nomme pas finalement les véritables coupables, bah, se retrouve face à deux géants. Parce que effectivement, même si il me semble que la France, l'Union européenne, les États-Unis ont dû intervenir pour intercepter ces drones, mais comment est-ce qu'aujourd'hui on peut effectivement donner des leçons quand on sait qui sont les véritables coupables et comment en fait arriver en se disant, bon, nous on veut faire la médiation, on est là pour le dialogue. C'est très compliqué.
Alors, j'aimerais qu'on écoute ensemble un homme particulièrement inquiet quant à la situation au Proche-Orient. Il s'agit d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
The Middle East is on a precipice.
Le Moyen-Orient est au bord du précipice. Ces derniers jours ont été marqués par une dangereuse escalade, en paroles et en actes. Un mauvais calcul, une mauvaise communication, une erreur pourrait conduire à l'impensable, un conflit régional généralisé qui serait dévastateur pour toutes les parties impliquées et pour le reste du monde. Ce moment de danger maximal doit être l'occasion de faire preuve de la retenue maximale.
Le Moyen-Orient est au bord du précipice, selon le patron des Nations Unies. Éric Topona, vous partagez l'avis du secrétaire général de l'ONU ? Le Moyen-Orient est au bord du précipice ?
Le Moyen-Orient est déjà dans le précipice, hein, pour essayer d'aller un peu plus loin. Et c'est pourquoi il va falloir vraiment que ces acteurs internationaux, ONU, puissance occidentale, États-Unis, essaient d'aller au-delà des discours, hein, de condamnation qui ne meuvent apparemment pas les acteurs concernés. Et il faut rappeler aussi que ces dernières années, Israël a été régulièrement accusé d'avoir mené des actions pour saboter le programme nucléaire iranien. Il ne faudrait pas exclure que même s'il n'y a pas d'affrontement direct, les Israéliens peuvent continuer d'opérer des cyberattaques. Donc cette guerre pourrait continuer sous d'autres formes, d'où la nécessité vraiment d'aller au-delà des discours, essayer vraiment de prendre des mesures hardies pour éviter la confrontation.
Moi, je pense qu'on devrait s'inquiéter.
Ahmed Newton Barry.
Non, moi, je pense que je suis plutôt afrocentriste. Je pense qu'on devrait se craindre plutôt pour les crises périphériques.
C'est-à-dire que le conflit au Moyen-Orient prend toute la place, on ne parle plus des autres conflits à travers le monde.
Mais regardez un tout petit peu, quand vous prenez Israël et que vous prenez l'Iran, de ce qu'on parle jusqu'à présent, leurs territoires, à eux, ne sont pas impactés par les crises qui sont menées. Et quand vous dites, et on l'a vu, aussi bien les missiles et les drones envoyés contre Israël ont été interceptés, donc n'ont pas touché le sol israélien. Apparemment, c'est la même chose en ce qui concerne l'Iran. Mais quand on regarde l'Afrique, c'est là-bas où se trouvent toutes les dévastations et tous les désintéressements aussi. Et donc, je pense qu'il faudrait que nous travaillions à réorienter la communauté internationale. Je ne sais pas comment il faut le faire, mais il faut faire un vrai lobbying pour qu'ils daignent laisser un tout petit peu Israël et revenir un peu à nos conflits, qui sont, à mon avis, les plus importants, où il y a des misères et des drames indescriptibles qui se produisent. Moi, je viens du Sahel, je sais ce qu'il en est.
Ce que je trouve dramatique, justement, quand on a parlé de la conférence qui était faite pour lever des dons pour le Soudan, on parle de guerre oubliée. Je trouve ça tellement triste parce que, effectivement, en gros, on se rend quand même compte que sur le continent africain, comme vous dites, on assiste à énormément de déstabilisation de part et d'autre et qu'on est au milieu de ce conflit d'éléphants. Et malheureusement, nous ne sommes même pourtant pas, comme on dit souvent, des petites feuilles. Et c'est nous qui en pâtissons le plus.
Un mot sur les dirigeants à la tête de ces deux pays, Israël et l'Iran. Israël d'abord, ce conflit avec l'Iran est-il bénéfique pour Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien critiqué depuis l'attaque du 7 octobre ?
Eh bien non, c'est clair que lui, il perd de plus en plus en crédibilité et que surtout, il se retrouve un peu confronté au fait que il faut effectivement qu'il organise des élections. Donc lui, il a complètement perdu en termes d'image.
Éric Topona, certains estiment que Benjamin Netanyahou tente d'internationaliser le conflit à Gaza depuis le 7 octobre dernier. Vous partagez ce point de vue ?
En partie, puisqu'effectivement, il est à la peine et même au niveau intérieur, il ne joue pas d'une popularité qu'on aurait pu imaginer. Donc beaucoup d'Israéliens commencent déjà par se lasser par cette guerre, surtout que les raisons invoquées n'ont toujours pas trouvé de solution. Les otages qui sont toujours entre les mains du Hamas, la guerre qui continue donc de se dérouler. Et donc du coup, Netanyahou essaie, étant à la peine au sein d'une partie de son opinion, essaie aussi d'internationaliser ce conflit pour avoir de plus en plus de soutien, pour que ceux de ses alliés qui étaient hésitants puissent se dire « Ok, la menace iranienne nécessite qu'on puisse venir à la rescousse, pour venir épauler l'allié israélien, l'allié Netanyahou, pour éviter justement que ce conflit ne puisse déborder. »
Ahmed Newton Barry, qu'est-ce que le régime de Téhéran aurait à gagner dans un affrontement ouvert face à Israël ?
Absolument rien, ils n'iront pas non plus. Ce qui se dessine, à mon avis, c'est quand même la mise en place de superpuissances ou des puissances sous-régionales qui essaient de se jauger l'une l'autre, mais évidemment qui n'iront pas au-delà de mon point de vue de la dissuasion. Vous avez posé une question tantôt qui était intéressante, c'est-à-dire est-ce que, en ce qui concerne évidemment les évolutions de la crise au niveau du Moyen-Orient aujourd'hui avec la situation qui prévaut avec l'Iran, comment l'interpréter ? De mon point de vue, c'est peut-être aussi un moyen de sortir du face-à-face avec le Hamas, où on peut être gentil, mais Israël n'a pas gagné. Israël ne peut pas gagner ce type de guerre. Il est plus à l'aise, Israël, contre les États dans les conflits, je vais dire, tout à fait ordinaux, mais il a des difficultés à traiter la question palestinienne et notamment la question du terrorisme lié au Hamas, mais qui est un autre terrorisme d'un autre genre aussi. Donc, je pense que c'est un moyen de divertir non seulement l'opinion interne, mais un moyen aussi d'atténuer le camouflet pour évidemment Netanyahou, qui de toute façon, de mon point de vue, au regard de la latitude de l'opinion israélienne, vivra le temps de cette crise. Mais après, je ne suis pas certain.
Et on va clore ce débat. Merci infiniment à tous les trois d'avoir apporté vos regards et vos points de vue dans ce débat africain. Ce débat africain, vous pouvez le retrouver en podcast sur l'application RFI Pure Radio. Merci à l'équipe du débat africain, Delphine Michaud à la coordination et Taguimfa Traoré à la réalisation. Je vous rappelle que le débat africain change de case horaire. Vous nous retrouvez désormais à 8h10 et 22h10 le samedi. Le dimanche, au même case horaire, rendez-vous avec Afrique, mémoire d'un continent, présenté par Elgas et Penaï Traoré. De Dakar à Kinshasa, en passant par Pretoria et Alger, merci de votre fidélité. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux points de vue africains dans un monde en perpétuel mouvement.